Écoutez bien, voici l'histoire de l'établi de l'éducation artistique et culturelle. L'établi dans un atelier, c'est une table sur laquelle on dispose, où on fixe, la pièce à travailler. L'établi de l'éducation artistique et culturelle, c'est une série de kits mis à disposition de toutes et tous, dont l'objectif est de se saisir facilement des outils qui permettent à toutes et tous une rencontre, une pratique et une connaissance des arts et de la culture. Comment ? Eh bien, c'est très simple. Chaque kit est composé d'un mode d'emploi sous forme de podcast à écouter, en fermant les yeux, de ressources, d'un outil pratique à destination des enseignants, des partenaires artistiques et culturels. Les kits ne seront pas des pièces terminées, ils sont des suggestions. Ils ont vocation à s'enrichir de vos contributions. Piochez-y, baladez-vous, arpentez et laissez-vous guider par notre mascotte, Kit. L'établi de l'EAC, c'est également un lieu de formation et de recherche, l'INSEAC. Un lieu physique et à distance dans lequel vous pourrez vous former, produire des ressources et contribuer au Living Lab de l'Institut National Supérieur de l'Éducation Artistique et Culturelle pour atteindre ensemble le 100% EAC.
L'éducation musicale à l'écoute, partie 1, orchestre à l'école et Demos Kreisbreis. Les orchestres d'enfants en zone rurale. Je suis Raphaël Roth, je suis maître de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'INSEAC du CNAM. La musique fait partie des objets culturels les plus présents dans nos vies. Et ce, quel que soit l'âge, le genre, le milieu social, le niveau scolaire ou la nationalité des auditeurs. Pour autant, en tant qu'art non-verbal, comme le dit le sémiologue de la musique Jean Molineau, la musique est une forme symbolique dont la maîtrise du code est inégalement partagée. Certains ont une formation musicale. Certains ont grandi avec des disques à la maison. Certains ont des parents musiciens. Certains ont accès à une médiathèque. Certains habitent à proximité d'une salle de concert, d'un conservatoire, d'une école de musique. La musique n'est donc pas un langage, au même titre que la langue française par exemple. Du moins, tant que nous ne l'apprenons, ni ne la maîtrisons, comme nous maîtrisons notre langue maternelle. Ce kit donne à entendre des élèves en situation d'apprentissage de la musique dans différents contextes. Orchestre à l'école, Demos. Ils donnent aussi à entendre leurs enseignants. Le podcast que vous vous apprêtez à écouter est le premier volet d'une série de podcasts destinés à enrichir le kit éducation musicale de l'établi de l'EAC. Il est consacré à deux orchestres d'enfants en territoire rural.
Et maintenant, voici l'histoire. Un beau matin, petit Pierre ouvrit la porte du jardin et s'en alla dans les grands prés verts.
Je ne sais pas lire les partitions parce que j'ai jamais fait de solfège, mais du coup, pour ceux qui n'ont jamais fait de solfège, il y en a avec les notes dessus.
Non, alors ils ont les partitions. Les professeurs indiquent parfois des repères, des positions de piston, etc. Et puis, après, en fonction des partitions, il peut y avoir une explication de la partition, mais on est davantage sur la pratique que sur l'apprentissage théorique.
Marc Regnault, conseiller DAC Musique et Chant Choral à la DAC Bretagne et professeur de musique au collège Eugène Guilevic de Pleuc-l'Hermitage.
Donc le dispositif orchestre à l'école, c'est donc l'idée de mettre en place des pratiques musicales collectives dans les établissements scolaires pour enrichir le parcours d'éducation artistique et culturelle des élèves. C'est toujours un partenariat avec des écoles de musique. Pour l'orchestre ici, donc notre partenariat, c'est un partenariat avec l'agglomération de Saint-Brieuc et avec le conservatoire donc, de Saint-Brieuc, puisque les intervenants qui interviennent sont salariés du conservatoire de Saint-Brieuc. L'idée dans, dans le déroulement de l'orchestre, c'est d'avoir à la fois du temps de travail par pupitre pour les élèves, donc les saxophones ensemble, les trompettes ensemble, etc. Et puis surtout, des temps de restitution collective, les fameux tutis. Voilà, donc on essaye d'articuler un petit peu les deux. Pour les élèves, ça représente un volume horaire de 2 heures par semaine, sachant que sur ces 2 heures, on n'a qu'une heure et demie d'intervention des partenaires extérieurs. Donc, comme vous avez pu voir ce matin, on a d'abord une petite demi-heure d'échange avec les élèves. On fait le point sur la vie de l'orchestre, sur les prochaines échéances, ce qui va se passer, etc. Et puis ensuite, donc, le temps de pratique. Donc, les élèves passent trois quarts d'heure en atelier, puis et trois quarts d'heure en tout-y.
On peut pas se permettre d'avoir vraiment un gros accès sur la technique personnelle. Oui. C'est une affaire d'ensemble et d'écoute. C'est pour ça que ça met cette ambiance dans les classes.
Pioups, professeur de trombone et tuba.
C'est être tous ensemble, écouter ce qu'on fait, écouter ce que font les autres. Qu'en école de musique, il y a ta technique personnelle, il y a ton cours, tu es tout seul, et tu dois en plus apprendre le reste quand tu fais de l'ensemble. Mais là, c'est que de l'ensemble directement, donc c'est forcément ça.
Est-ce que c'est différent pour vous d'intervenir dans ce cadre-là, d'orchestre à l'école, que dans l'école de musique, quand vous avez des groupes? Qu'est-ce qui est différent?
Nathalie Legalovic, professeure de trompette.
Alors, la différence aussi, c'est qu'à l'école de musique, un enfant qui vient faire de la trompette, on l'a en cours individuel. Donc là, on les reçoit vraiment tous en collectif avec... pour la plupart, moi, je sais de cette année dans le groupe, des débutants. Donc, c'est à la fois une attention au groupe et une attention à chacun, parce que quand on démarre un instrument avant, c'est un rapport personnel aussi à l'instrument qui s'établit. Donc, oui, c'est pour moi un autre état d'esprit.
Vous êtes en quelle classe?
Alors, levez la main, les sixièmes. Levez la main les cinquièmes. Levez la main les quatrièmes. Et les troisièmes.
Les élèves, ils ont aussi...
Marc Regnault.
Ils ont aussi voix au chapitre quant au choix du répertoire. D'abord, par exemple, on a répété ce matin un morceau, donc Santillano, ça c'est une demande des élèves, c'est une proposition des élèves. Alors parfois c'est un peu compliqué parce que ils mesurent pas forcément la difficulté du morceau par rapport à leur niveau. Et puis, par ailleurs, on a aussi un stock de morceaux et en général, quand on va prévoir des concerts, on va piocher un, deux ou trois morceaux dans ce stock-là. Et là, c'est les élèves qui proposent le morceau qu'ils ont envie de jouer. Et puis, quand parfois des élèves se sentent moins motivés, en général, ils viennent me voir, puis on en discute ensemble, et puis on essaie de comprendre pourquoi. Parfois, il y a des élèves pour qui c'est compliqué de faire de l'instrument à la maison, par exemple. J'avais la situation, une année passée, d'une élève dont la maman était assistante maternelle, donc faire l'instrument à la maison, c'était compliqué, avec les enfants qui étaient à garder. Et parfois, il faut redire à l'élève qu'il n'y a pas d'exigence là-dessus, il n'y a pas de pression là-dessus. C'est un des rares... c'est un peu comme la chorale, c'est un des rares dispositifs sur lesquels la question de la note ne se pose pas, parce qu'il n'y a pas de note. Ça ne veut pas dire qu'ils n'y travaillent pas de compétences, mais voilà. Donc il n'y a pas d'exigence, il n'y a pas de pression là-dessus.
Je peux largement me permettre d'adapter aux jeunes que j'ai en face de moi, en fonction de ce que je perçois, de ce qu'ils sont capables de faire. Et du coup, ça valorise tout le monde. En fait.
Gervan Mével, professeur de percussion.
Et ça crée vraiment une dimension de groupe. Il n'y a pas de niveau requis, il n'y a rien. Et j'en tiens compte, quoi. Donc ça, je trouve ça très, très bien, quoi.
On n'est pas du tout une... Enfin, on n'est pas une école de musique. Enfin, ça reste un collège ou une école, parce que c'est... On va retrouver les mêmes questionnements dans les orchestres, dans les écoles primaires. Ici, la pratique musicale, elle est un outil pour travailler d'autres compétences, être ensemble, se trouver sa place dans un projet collectif, etc.
J'ai deux gamins que j'ai en ensemble de cuivre. Antonin, qui est un de mes anciens élèves en trombone,
Pioups.
Je l'ai poussé plutôt vers le tuba. C'est ça, te faire un complément. Tu as déjà la technique de souffle, tu n'auras plus que les pistons à apprendre. Et Malo, qui est trompettiste, qui lui a la technique des pistons, je lui dis, mets-toi au tuba. Ça va te faire respirer autrement, moins de pression, plus de volume. Et c'est aussi bien. Sinon, après, je pense que les enfants, ça ne va pas amener la même ambiance. S'il y en a un qui arrive et qui maîtrise déjà son instrument vis-à-vis du pupitre, il va finir par faire son cacou. Et voilà. C'est pas le but du jeu, quoi.
Thank you.
Bien ensemble.
Moi parfois, quand je suis énervée ou on est triste, en fait, jouer de la musique, par exemple, quand je joue, quand je souffle très fort dans ma trompette, quand je suis énervée, ça libère. Et puis l'instrument, c'est vraiment un art qui nous révèle un talent qu'on ne savait pas. Par exemple, au début de l'année, je ne savais pas que j'aimais la trompette. Et aussi, c'est bien parce qu'on est tous ensemble, on a tous vécu des épreuves et la musique, ça libère toujours des émotions sans parler. On n'a pas besoin de parler, on doit juste jouer. Ça peut libérer des émotions. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a des partitions qui sont tristes, certaines qui sont joyeuses, d'autres qui... Ça exprime toujours des émotions, la musique.
Ça vous demande de continuer, la musique ? Vous avez...
Oui.
Vous avez choisi vos instruments ?
Oui.
Ouais. Vous êtes content de vos choix ?
Oui.
Il y en a qui voudraient changer ?
Oui.
Vous dites tout le temps oui ? Oui.
Moi, je trouve que le dispositif fonctionne très bien. Et
Marc Regnault.
C'est vraiment un dispositif très efficace pour l'amélioration du climat scolaire. On voit bien les élèves qui sont à l'orchestre, ce sont des élèves qui sont moins impliqués dans des histoires sur le temps de vie scolaire. C'est des élèves qui sont moins absents que les autres. Ça se voit particulièrement, on a eu au mois de février un épisode de neige, donc les cars n'ont pas circulé. Mais le jeudi matin, quasiment tous les élèves de l'orchestre étaient là, quoi. C'est-à-dire que... et certains, d'ailleurs, ne sont venus que pour l'orchestre. Voilà, c'est-à-dire que c'est vraiment un truc important pour eux. Donc, là-dessus, c'est vraiment un dispositif efficace. Question du plaisir d'apprendre, c'est pas un tabou du tout dans ce genre de dispositif, c'est même au cœur du dispositif. Il faut que les élèves y prennent du plaisir et il faut qu'ils puissent aussi s'approprier le dispositif. Aujourd'hui, c'est vraiment devenu leur orchestre. C'est pour ça qu'on a insisté aussi pour que les élèves élisent leurs délégués, qu'ils les représentent au conseil de la vie collégienne, et les élèves ont eux-mêmes fait des propositions. Par exemple, on va bientôt enregistrer les nouvelles sonneries du collège, qui seront donc enregistrées par l'orchestre. Voilà, donc ça, c'est les idées des élèves, donc voilà, parce que c'est aussi leur orchestre.
Je vais m'effacer, vous allez essayer de suivre la batterie, y compris sur le saut de batterie, on va voir si vous êtes capable de compter les mesures. On est concentré, Océane.
Alors qu'au départ, on était sur de l'achat d'instruments vraiment d'entrée de gamme, parce que, à cause de la question du coût, avec orchestre à l'école, l'idée, c'est quand même d'avoir au moins du milieu de gamme. Donc, certes, l'association orchestre à l'école finance 50%, mais sur globalement un budget qui est plus élevé quand même. Donc, mais mine de rien, c'est quand même un investissement très lourd pour l'orchestre, pour l'établissement. C'est un investissement aussi pour les partenaires, parce que c'est aussi des heures donc d'intervention qui sont mises à disposition. Mais voilà, pour cette année, il faut imaginer quand même que sur le compte de l'établissement, il y a eu un peu plus donc de 10 000 euros d'investis. Il y a 2 heures sur mon service, il y a 2 heures d'heures supplémentaires sur le service du collègue de mathématiques qui a accompagné mon projet. C'est un effort conséquent, mais qui est quand même d'autant plus accepté que l'ensemble des collègues voient quand même le résultat de ce travail, en fait.
1, 2, 3, 4.
Dans le domaine des pratiques instrumentales collectives, on a deux dispositifs. Donc il y a orchestre à l'école et il y a Demos. Donc Demos, c'est la philharmonie qui cible un conservatoire, qui va travailler avec des écoles de son secteur. C'est pas l'association Orchestre à l'école, qui est le partenaire financier, qui décide des lieux où elle veut s'implanter. Je suis prof dans mon école ou dans mon collège. Je veux monter un orchestre à l'école. Je contacte l'école de musique du secteur pour voir s'il y a la possibilité d'un partenariat. Et ensuite, soit je regarde mes financements propres, soit j'avertis la tutelle, donc la commune pour une école ou le département pour un collège. Je contacte ensuite l'association orchestre à l'école. Et voilà, les choses se montent comme ça. On est vraiment sur quelque chose qui part d'une envie du terrain.
Ils sont nombreux. Tout type d'instruments. Nous aurons évidemment toutes les cordes frottées. Nous aurons les cordes pincées avec la classe de harpe assez exceptionnelle dans un orchestre Demos. Toute une classe de harpe qui est en plein centre de l'orchestre. Les cuivres avec les tubas, les trompettes. Et puis on aura les flûtes, les clarinettes. Et toute une ribambelle de percussions aussi assez exceptionnelle dans un orchestre Demos. Alors, tout ce projet Demos fonctionne évidemment pour 45 orchestres avec des soutiens nombreux. Nous avons d'abord les ministères, point de vue de l'État, le ministère de la Culture, le ministère des cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la Jeunesse et des Sports et le ministère de l'Outre-mer. Plus de 300 collectivités territoriales soutiennent ardemment le projet Demos, c'est-à-dire les agglomérations, les villes, les communes, les départements et les régions. Évidemment, la Caisse nationale d'allocation familiale et puis un parrain en or depuis de nombreuses années, c'est Lilian Thuram avec sa fondation qui s'appelle Éducation contre le racisme et une marraine, une pianiste, Katia Bounatichvili, même si le piano est très peu représenté dans les orchestres Demos. Des fois, on a des pianos dans les orchestres symphoniques, mais pas là. En tout cas, ce projet-là, il tient d'une manière nationale pilotée par la Philharmonie de Paris, mais chaque orchestre ensuite est piloté par d'autres acteurs sur le territoire. Et c'est le cas de cet orchestre Crazy Braise, qui est piloté en particulier par l'école de musique, danse et théâtre du Crazy Braise, de la communauté de communes Crazy Braise, avec laquelle justement ils ont pu réussir à fédérer. Parce que la problématique d'un orchestre comme celui-ci, moi j'ai commencé ici en 2010 en tant que prof de trompette dans un orchestre. J'avais le métro, j'allais donner mes cours, tranquillou, on va le dire comme ça. Mais... Quand vous êtes autour de Rostrenin, 20 000 habitants, plusieurs communes, communautés de communes, 23 communes, et vous devez aller faire du trajet, beaucoup de trajet, pour aller donner un cours par-ci, par-là, je pense qu'on peut applaudir énormément les professeurs qui ont soutenu et qui tiennent depuis 3 ans justement ce tissage entre les communes et les enfants et les partenaires et institutions. Merci pour eux.
France Gandubet, chef de projet Demos Crazy Braise.
Alors Demos, donc c'est un acronyme. Demos, c'est dispositif d'éducation musicale et orchestrale à vocation sociale. Alors il y a le V qui est chanté, mais donc c'est bien un dispositif de musique en orchestre et à vocation sociale. Donc la première idée de Demos, elle s'est construite autour de ce qui s'appelait le Sistema au Venezuela. Il y a d'autres expériences comme Big Noise en Écosse. Il y a eu une expérience aussi au Brésil. Il y en a dans différents pays. Et donc la Philharmonie de Paris, c'était au tournant des années 2009-2010, voilà, a construit une initiative. C'était aussi dans la volonté d'installer aussi cette philharmonie dans un arrondissement populaire, donc de rendre accessible la musique à des publics qui n'y ont pas accès et de rentrer un peu en rupture avec cette reproduction sociale habituelle d'une musique savante réservée aux élites. Voilà, l'idée, c'était de contrer ça un petit peu et donc d'y aller par un dispositif de formation qui pour moi est dans le champ de l'éducation artistique et culturelle évidemment, et donc de s'adresser dans des quartiers populaires, donc c'est pour ça que la vocation sociale est importante, et dans Demos, y compris ici, on a peut-être moins cette question sociale, mais plus d'éloignement distanciel. L'idée c'était de faire en sorte que ce dispositif ne bénéficie pas à des enfants déjà musiciens, mais qu'on aille au contraire le proposer à des enfants qui n'avaient pas la musique dans leur pratique. Donc il n'y a pas de logique à exclure un enfant motivés non plus, et certains étaient évidemment très motivés pour intégrer ce dispositif-là, mais la règle générale, c'est des enfants n'ayant pas eu accès jusque-là à la pratique
musicale. Et je sais plus si on l'a dit, mais c'est complètement gratuit pour la famille.
Marine Chédotel, coordinatrice Demos Crazy Braise.
C'est-à-dire que les cours, enfin les ateliers vont être gratuits, Le prêt d'instruments est gratuit aussi. C'est la Philharmonie qui a un parc instrumental qui met à disposition les instruments pour les enfants. Et là, la CCKB a suivi ce principe-là jusqu'au bout en mettant aussi la gratuité pour le TRAD, qui est un système de transport rural à la demande, donc, qui existe déjà sur le territoire, qui est déjà très peu cher. Mais là, pour Demos, c'est gratuit. C'est-à-dire que voilà, y a un taxi qui fait du porte-à-porte, qui vient chercher les enfants chez eux, qui les ramène chez eux, et c'est gratuit. Voilà, pour venir aux ateliers, aux rassemblements en orchestre. Voilà, on applique ce principe-là jusqu'au bout, sur tous les aspects du projet.
Ici, c'est
France Gandubert.
Il y a une volonté politique des élus de la communauté de communes du Kreisbreis et une mise en œuvre par l'association École de musique, danse et théâtre du Kreisbreis, qui est le titre d'enseignement artistique de l'intercommunalité. Et donc un partenariat entre ces deux structures-là. Et c'est pas juste, la Philharmonie ne vient pas juste donner une enveloppe financière au territoire de se débrouiller, c'est vraiment un échange régulier et tout au long des 3 ans. C'est-à-dire qu'il y a vraiment non seulement une synergie entre les différents orchestres. Par exemple, Marine, coordinatrice, échange souvent avec ses collègues, ses homologues coordinateurs sur d'autres dispositifs Demos.
Ah oui, ouais.
Donc il y a aussi, on tire un bénéfice des expériences des autres orchestres. Donc il y a vraiment ça, le lien de la Philharmonie le fait, et y compris sur la fin du projet où tous les orchestres se réunissent aussi à la Philharmonie de Paris à la fin des 3 ans de pratique. Alors ici, particularité de Demos Kreisbreis sur ce qui est le répertoire du Centre-Bretagne, du Kreisbreis, puisqu'on est en Centre-Bretagne, on a décidé de s'appuyer sur l'histoire du territoire, mais tous les orchestres Demos ont un lien fort à l'oralité, en fait, tout simplement parce que dans l'enseignement artistique, en fait, l'oralité a une place, devrait avoir une place en tout cas plus importante. Et c'est vrai que depuis la Révolution française et la création du Conservatoire de Paris, on est beaucoup parti sur le solfège, des choses très didactiques, très, très basées sur l'écrit. L'écrit a pris une place peut-être prédominante, un peu trop importante. Et ce qui fait que, mais la musique, c'est avant tout, ça passe par les oreilles, ça passe par ce qu'on entend, par l'expression. L'écrit est un outil formidable, mais ça doit rester un outil. Et c'est vrai qu'on a peut-être dans l'enseignement musical en France, à travers les 2 siècles passés, beaucoup plus basé sur l'écrit, qui était vraiment à une époque où on rentrait au conservatoire, qu'après 3 ans de formation musicale, de solfège, on pouvait commencer l'instrument seulement 3 ans après. Là, on commence d'emblée, et un peu comme un enfant, on va apprendre à parler avant d'apprendre à écrire. On est parti sur le même principe, donc là on chante d'abord, on fait de la danse, on se positionne bien dans son corps, on apprend à communiquer avec les autres par le chant, et puis après vient l'instrument, très rapidement quand même, au bout de 2 mois. Et donc la transmission, elle est d'abord orale. Et la transmission orale, évidemment, on trouve de magnifiques exemples dans les cultures traditionnelles, qu'elles soient de Bretagne ou d'ailleurs. Donc dans beaucoup de démos, il y a notamment sur la 2e année, quand on passe de l'oral vers l'écrit, parce que l'écrit va devenir un outil de démos aussi, mais pas tout de suite, après. C'est un exemple justement pour illustrer tout ça, et pour les enfants, pour prendre conscience aussi d'un répertoire de tradition orale. Donc quand on est en quartier politique de la ville, on se base sur une tradition soit qui est présente dans une communauté localement, par exemple sur des musiques orientales, sur des musiques indonésiennes et autres, mais les musiques savantes restent quand même aussi un intérêt, puisque Demos, c'est l'objet de l'orchestre. Donc avec les danses anciennes, souvent en première année, on aborde aussi du répertoire. Ça peut être de Mozart, donc de l'époque classique, Mozart, Haydn, Beethoven, l'époque romantique. Là, cette année, l'orchestre travaille d'une suite de Gabriel Fauré, donc on est début 20e, musique française du début 20e, donc ça fait partie de la culture. Et puis la création contemporaine, ça aussi, c'est un axe important qu'on développe souvent en 3e année de Demos, et d'avoir un équilibre, voilà, musique savante, classique, contemporaine, et puis musique de tradition orale qui est là. Et on va chercher par moments à retrouver l'oralité aussi dans les musiques savantes. Si on va sur la musique baroque ou la musique de la Renaissance, on peut très facilement se passer de l'écrit à la musique baroque. Et il y avait beaucoup d'improvisation dans ces musiques-là. Et c'était une époque justement avant que l'écrit prenne une place vraiment prédominante, où le compositeur n'écrivait pas tout. L'interprète avait une part très importante. Le chant, effectivement, il est d'importance capitale dans Demos, mais je dirais qu'il doit être capital, je dirais, dans toute formation de musicien.
C'est-à-dire que c'est un outil indispensable. Et même le ministère de la Culture, dans ses dernières versions du schéma national d'orientation pédagogique, a replacé l'importance du chant, notamment dans l'apprentissage instrumental. Et le chant doit être un outil de tout musicien, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que c'est une expression directe qui passe pas par la technique instrumentale et qui permet justement de faire le lien avec ce qu'on entend, avec toute l'expression, finalement, toute la mémorisation, tout ça passe par le chant, c'est très très lié. Donc finalement, ce qu'on fait dans Demos, c'est ce qu'on devrait faire aussi dans l'apprentissage musical, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'un professeur d'instrument, aujourd'hui, peut-être qu'il passe sur, on va dire, 30 minutes de musique, moins 5 à 10 minutes à chanter avec son élève, parce que c'est un besoin aussi, au-delà de la technique instrumentale, de se réapproprier peut-être directement pour ensuite replacer la difficulté dans un contexte de maîtrise d'un instrument de musique. Donc là, dans Demos, on le fait parce que ça fait partie des pédagogies collectives, qu'on se sert aussi des compétences ajoutées des chefs de chœur, des danseurs pour la danse, mais des chefs de chœur là pour l'occasion.
Pour moi, la danse va avoir la même importance.
Marine chez d'autres.
En fait, c'est vraiment une articulation de tout ça en même temps. Je pense pas qu'il y ait quelque chose de préalable à l'instrument, parce que ça va tout le temps ensemble. Bon, après, voilà, je parle de choses, moi, j'enseigne pas la musique, hein, c'est plutôt... de ce que je ressens du projet et de ce que je vois du travail des chanteuses et danseuses avec des enfants, c'est quand même l'idée que tout ça s'articule en même temps. Quelque chose qu'on va jouer à l'instrument, ben, on sait le chanter, on sait le danser, on sait... voilà, tout passe par là, en fait, on l'intègre vraiment de cette manière-là. Et ça permet, par exemple, si on a une difficulté à l'instrument, je sais pas, des choses d'interprétation aussi, de... Alors, tiens, là, le phrasé, là, tu te rends compte que tu coupes un peu ta phrase au milieu, en fait, ta phrase, elle fait tout ça, ben, viens, on la chante ensemble. À quel moment est-ce que tu respires, en fait, quand tu... Voilà, l'archet, ça va être pareil, enfin... Ça, c'est vraiment un outil pour permettre de jouer et de comprendre aussi la musique. C'est vrai, c'est un autre outil, une autre façon de... Un autre instrument, pour moi, c'est vraiment ça aussi. Et donc, pareil avec la danse. Ça va aider. Alors, on a fait beaucoup de percussions corporelles ces derniers temps, on pourrait aussi aider rythmiquement, mais c'est vrai qu'on a beaucoup fait en première année des choses très gestuelles, enfin, il y avait des petites chorégraphies qui m'ont vraiment aidé à intégrer déjà l'esthétique du baroque. Voilà, les mouvements étaient une forme d'interprétation des airs qu'on jouait. Et puis, même pour ressentir aussi les différentes mesures, voilà, c'est du 2 temps, c'est du 3 temps. Ben voilà, là souvenez-vous, on sent pas du tout le 3 temps dans ce que vous jouez, ben attendez, hop, on pose l'instrument, on le reprend, on le danse, voilà, là c'est bon, on l'a réintégré, maintenant on reprend l'instrument et puis là c'est reparti, quoi.
La Firmus justement a trouvé intéressant la collégialité, enfin la complémentarité Brest Métropole, qui est un territoire très urbain, c'est une métropole, à une collectivité hyper rurale, et d'ailleurs qui était un peu rejointe dans l'idée d'un contrat de réciprocité urbain-rurale qui a été mis en œuvre dans l'année 2015, je crois 2015-2016, où il y avait des rapports entre Brest Métropole et Pays Centre-Est-Bretagne. Ici, on fait partie du Pays Centre-Est-Bretagne. Assez bien en écho avec ce qui avait été fait sur ce territoire sur les temps d'activité périscolaire qui était lié à la réforme de l'organisation scolaire qui est passée maintenant. Et à l'époque, alors je n'ai plus les dates en tête, mais entre 2014-2017 à peu près, il y avait donc une organisation alors communale, mais qui avait été coordonnée par la communauté de communes du Kreisbreizh, et il y avait eu un réseau d'animateurs intervenant dans ce qu'on appelait ici des temps d'activité périscolaire, assez importants et dans différentes thématiques, que ce soit les sciences, le sport, la culture. Enfin, il y avait tout un tas de thématiques et toutes les écoles du territoire avaient globalement très très bien organisé avec des compétences nouvelles.
La magie aussi.
Il y avait on faisait des liens pédagogiques, ce qui était pertinent. Et c'est vrai que l'arrêt de cette réforme scolaire avait posé la question aux élus. Voilà. Et maintenant, c'est vrai qu'on avait développé, ils avaient le sentiment d'avoir développé une spécificité. D'ailleurs, je crois qu'ils ont démontré un exemple par certains territoires plus urbains. Et comment garder ce bénéfice-là ? Du coup, Demos est venu presque à ce moment-là. Et alors, même si on est sur un objet
ciblé sur la musique. On dépasse le cadre de la musique, parce que dans Demos, il y a aussi de la danse. Il y a de la musique, pas qu'avec l'instrument, mais aussi par le chant. Et puis, on est sur un projet...
C'est éducatif, quoi.
Un projet, voilà, dimension éducative, sociale aussi.
Puis ce que j'y vois aussi, c'est l'opportunité de travailler avec des nouvelles compétences professionnelles. On n'a pas l'habitude de travailler dans le milieu artistique. Ben, tout à l'heure, je parlais du lien avec les référents sociaux et les musiciens. Mais c'est vrai que, du coup, les pratiques de tous ces corps de métier-là viennent se compléter. Et en fait, on s'inspire beaucoup de ce qui se passe, par exemple, dans les écoles. Un truc qui est arrivé il n'y a pas très longtemps. Là, on est sur un groupe de travail en ce moment pour préparer la suite de Demos, le parcours d'orchestre avancé. Et on s'est dit, mais en fait, et si on s'inspirait un peu de ce qu'ils font les instits à l'école, parce que dans le genre fiche-outil, fiche-méthodologie, ils sont hyper calés, hyper forts là-dessus. Bah voilà, est-ce qu'on va pas s'inspirer de ça pour faire des fiches de prépa de cours, pour que ce soit transposable aux autres, surtout quand on travaille en équipe, il faut que les choses puissent être transmises. Donc voilà, juste des choses comme ça. Chaque métier a un peu ses petites fiches-outils, enfin, c'est son fonctionnement qui peut être transposable et donc qui se nourrit aussi. Et voilà, et je pense aussi dans les centres de loisirs, les animateurs qui ont l'habitude de gérer des groupes d'une manière hyper bien, enfin voilà, d'assurer la bienveillance entre les enfants, qui ont aussi ce rôle éducatif-là, ben, hop, là, ils apportent ça aussi dans Demos. C'est vraiment une occasion de complémentarité de tous ces champs professionnels-là, et c'est vraiment, ouais, cette occasion-là.
L'éducation musicale et l'écoute, partie 1, orchestre à l'école et Demos Kreisbreis, des orchestres d'enfants en zone rurale, un documentaire sonore de l'INSERAC. Merci à l'ensemble des intervenants que vous avez pu entendre dans ce podcast, aux élèves du collège Eugène Guilevic de Pleuc-l'Hermitage, aux élèves du projet Demos Kreisbreis. Merci à Gérard Philippe, Serge Prokofiev, Pierre et Leloup. Merci à la Philharmonie de Paris. Propos recueillis par Raphaël Roth et Lisa Lacombe, et réalisation par Yannick Hervé et Alexandre Manzanares, sur une musique originale du groupe Malo. Les kits de l'éducation artistique et culturelle sont pensés pour mettre en œuvre la charte pour l'éducation artistique et culturelle, et notamment son article 10, qui dit la chose suivante. Le développement de l'éducation artistique et culturelle doit faire l'objet de travaux de recherche et d'évaluation permettant de cerner l'impact des actions, d'en améliorer la qualité et d'encourager les démarches innovantes. Il est placé sous la direction scientifique d'Emmanuel Etis. Pour retrouver l'ensemble des éléments qui composent le kit et vous-même y contribuer si vous le souhaitez, rendez-vous sur le site internet de l'établi de l'EAC.